Cette maison est une très vieille maison.
Il y a une pendule dans les murs.
Tu entends le tic-tac.
On ne sait pas ce qu'elle fait là, mais on sait qu'il se passe des choses horribles.
Alors, tu as tout raconté à Lewis ?
Non, pourquoi tu dis ça ?
Disons-le avec le terme juste, parce que si on dit la pendule de l'Halloween, ça fait un peu plus raté quand même. La pendule de l'Halloween.
Oui, en anglais, The House with a Clock in its Walls. C'est du réalisateur Eli Roth. C'est une histoire fantastique, un film d'horreur qui est conçu vraiment pour toute la famille, pour les plus jeunes en particulier. Après la mort de ses parents, le jeune Lewis déménage chez son oncle, qui est incarné par Jack Black, et qui vit dans une maison qui est vraiment pas comme les autres. Une maison où les objets sont vivants. En fait, son oncle, c'est un sorcier. Et il habite...
Christian Page qui écrit ça, c'est lui.
Presque. Ouais. Et il habite aux côtés d'une voisine qui, elle aussi, est sorcière, qui s'appelle Madame Zimmerman, qui est jouée par Cate Blanchett. Et pour essayer de séduire ses nouveaux petits copains, le petit Lewis vole un livre de magie défendu dans une armoire et ressuscite un mort. Ce qui va entraîner... une série d'événements qui risquent d'entraîner la fin du monde. Donc, c'est l'adaptation d'un roman gothique du même nom qui s'appelle La pendule de l'Halloween. Et c'est une histoire qui se situe, mettons, entre peut-être un Harry Potter et un Jumanji. C'est juste pour te situer dans l'âge là, des gens qui peuvent aller regarder ce film-là. C'est
donc, un magicien qui va à l'école avec un troupeau d'hippopotames.
Mais
ça?
Il ne va pas à l'école de magie. Magie, on lui enseigne à la maison. Il va dans une école normale au secondaire et il y a des petits garçons qui sont extrêmement méchants avec lui. Donc, il est victime d'intimidation. Et contrairement à Harry Potter, il peut se servir de sa magie à l'école. Donc, parfois, il peut donner une leçon avec un coup de magie. Et c'est assez sympathique. Ça vient directement réveiller l'imaginaire des enfants. Ce n'est jamais trop violent. La dynamique entre Cate Blanchett et Jack Black est assez comique. Ils sont toujours en train de se crier des gros noms. Ils se donnent vraiment des noms... ma vieille picouille, ou tu sais, ils se donnent des noms vraiment directs, mais c'est une relation où ils s'aiment beaucoup. Et Cate Blanchett, elle est toujours très élégante dans un rôle très belle, elle joue à la perfection. Et c'est très rare qu'on la voit jouer dans un type de film comme celui-là, destiné à un public plus jeune, ou même dans une comédie, là. On l'a rarement vu. Et il y a évidemment une morale, parce que c'est un film américain. Donc, la morale, c'est-à-dire de dire toujours la vérité. Ils sont un peu obsédés par la vérité, les Américains. Ils devraient peut-être regarder leur président un peu. Et une morale
plus
de vaincre...
ou moins d'appui à Hollywood, il faut le dire aussi.
Mais une morale surtout de vaincre ses peurs, d'être très courageux. Moi, des fois, ça vient me chercher un peu, là, ça m'énerve un peu. Mais bon, c'est très le fun. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Il y a une bataille de citrouilles aussi qui est assez... assez intéressant.
Bataille de citrouilles.
Oui, des citrouilles qui pour se défendre, des citrouilles qui deviennent méchantes, qui, pour se défendre, vomissent en jet tout ce qu'elles ont à l'intérieur, et puis ça se fige dans le sol. Et alors, voilà.
OK. C'est bon?
Oui, c'est bon. Allez-y en famille. C'est vraiment une activité, là. Si vous avez deux enfants de 7-8 ans, là, puis que vous allez au cinéma aujourd'hui, c'est vraiment agréable.
Autre affaire. Pauline Julien, intime et politique.
Voilà.
Ce soir... L'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce, ce soir.
Alors, cette année, on commémore les 20 ans du décès de Pauline Julien. Elle aurait eu 90 ans. C'est une chanteuse, la conjointe du poète et homme politique Gérald Godin. Elle s'est suicidée en 1998. Elle avait à peine 70 ans. Elle était victime d'aphasie. Elle avait cette maladie, ce qui faisait qu'elle ne pouvait plus parler ni chanter. Et on trace un portrait assez intéressant d'elle qui se nomme « Intime et politique ». Donc, ça va dans ces deux sens. On la voit dans son intimité, dans sa cuisine, en répétition. On est témoin aussi d'extraits de lettres qu'elle écrit à Gérald Godin. Et on la voit aussi parce que Pauline Julien, c'était une femme qui était entière, qui était aussi souverainiste, très engagée, très intègre. Donc, on trace le portrait de cette femme, mais on met en relief avec la montée du nationalisme au Québec. Parfois, peut-être, on se perd un peu dans la montée du nationalisme. Mais j'ai adoré rencontrer cette femme que je connaissais peu, qui a un magnétisme fou, qui a beaucoup de charisme. Et il y a un bon moment, d'ailleurs, lorsqu'on l'entend chanter « Bozo les culottes » de Raymond Lévesque sur des images de la crise du FLQ. Donc, c'est vraiment... C'est très court aussi comme documentaire. C'est 1h15. Et elle a beaucoup chanté en France. Donc, on écoute son ami, l'artiste Alan Glass, qui raconte...
La première personne à chanter Vigneault à Paris, c'était Pauline. Elle chantait Jacques Manoloy. Vigneault n'était pas connu à Paris. C'est Pauline qui a chanté Vigneault à Paris pour la première fois.
Disaient les canards, les perdrix, les sarcelles. Manoloy.
Donc, c'est une partie de notre histoire. Et puis, il y a une citation, en fait, qui porte beaucoup à réfléchir au départ. Elle dit « Je me sens tellement seule, peut-être que j'ai trop aimé. » Et je me questionnais à savoir si on pouvait trop aimer dans la vie.
C'est une question auquel je ne me risquerais pas.
Non, mais ça vient se connecter avec la fin de sa vie.
Dis-moi, on peut le voir où?
On peut le voir au Beaubien, on peut le voir dans différents cinémas. Je crois aussi que c'est en région. Évidemment, dans des salles, les plus petites salles, mais oui.
Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, beau sous les culottes.
Je trouve intéressant parce que de plus en plus, de moins en moins, ce serait le terme le plus juste, du documentaire comme ça sous forme cinématographique ou du documentaire format 1h, 1h30, là, unique. Tu vois de moins en moins les compagnies de production,
c'est
risque de moins en moins. Parce que ça demande un temps fou, là. Mais tant mieux.
C'est produit par l'ONF.
Ensuite.
J'essaie de trouver les horaires, mais je vais te revenir.
Il n'y a aucun problème. Dire, ouais. Michael Moore.
Oui, documentaire. On s'en est parlé lorsque j'étais au Festival du film de Toronto. Oui. Donc, documentaire de Michael Moore qui s'intitule 11-9, qui est l'inverse de 9-11, qui était un documentaire qu'il avait déjà fait auparavant. On a décidé de mettre l'accent sur la présidence de Donald Trump. C'est aussi la date à laquelle il a été élu, le 9 novembre, donc après minuit. La soirée électorale était le 8. Et c'est un documentaire qui commence vraiment en Lyon, qui est extrêmement fort. On voit la soirée électorale où tout le monde place Hillary comme la grande vainqueur de cette soirée et Donald Trump, l'espèce de grand loser. Et on voit... où le temps où ça s'inverse, tout ça. Puis là, on se dit, on va assister vraiment à un grand moment parce que la question qu'on lance, c'est comment qu'on a pu arriver à élire Donald Trump? Et on pense qu'on va faire le parcours de tout ça, ce qu'on va mettre la table. Et non, il part avec des histoires qui n'ont aucun lien avec la présidence de Donald Trump. En tout cas, aucun lien direct.
Toi, t'as été déçu par ça.
Ben, j'ai été déçu parce que je voulais avoir quelque chose qui était relativement bien attaché. Je voulais avoir une histoire qui se tient. Puis là, quand on part avec cette histoire, on va dans la ville de Flint, au Michigan, raconter que, bon, il y a des gens qui ont été intoxiqués par l'eau. Tu sais, tu te dis, puis c'est arrivé comme vraiment avant la présidence de Trump. Tu te dis pourquoi il raconte ça, pourquoi il va là, c'est pas très clair. Après ça, on s'en va à Parkland. Là, on parle évidemment du port d'armes. Ça devient plus intéressant parce que c'est plus directement lié à Trump. Et à la fin, on revient, puis là, il fait des analogies, comme par exemple, il fait une voix en surrépression sur Hitler et il prête la voix de Donald Trump à Hitler. Donc, on voit Hitler parler, et puis c'est Donald Trump qui parle. Non. Puis c'est un peu traumatisant. Ça sert à faire peur, évidemment, parce que ça va être l'élection de mi-mandat. Ils ont vu toucher les gens. Ils veulent essayer de renverser la cadence. Je suis pas certaine que les Américains vont aller voir ce documentaire-là. Je pense qu'on va plus le regarder.
Ceux qui sont convaincus vont aller le voir, puis ceux qui pensent que c'est de la foutaise pure et simple vont rester dans leur idée.
Je pense qu'au bout de la ligne, il ne changera rien, ce documentaire. Ouais. Et peut-être qu'il sera même plus vu ici au Canada qu'aux États-Unis.
Merci beaucoup, Catherine.